Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Chacun d'entre nous détient sa définition de l'amour et il serait hasardeux d'en proposer une qui fasse l'unanimité. J'aime tout de même cette définition. L'amour, c'est laisser la plus grosse part de pizza à l'autre. Mystère permanent du sentiment amoureux. Les poètes, les philosophes et les artistes n'ont plus le monopole de son discours. Désormais, les biologistes, les psychologues, les neuroscientifiques tentent de percer les ressorts de nos affinités sentimentales. Et comme le rappelle justement Julien Bisson dans l'hebdomadaire Le 1, le cœur a ses raisons que la raison connaît de mieux en mieux. Dans quelle mesure la raison, avec un grand R, la science, la technologie peuvent expliquer cette alchimie qui nous pousse vers l'être aimé? Quelle est la part rationnelle dans nos attractions sentimentales? Les applications et les sites de rencontres peuvent-ils nous aider à rationaliser nos choix érotico-sentimentaux? Les rencontres amoureuses seront-elles un jour prescrites par un algorithme, comme dans cet épisode de la quatrième saison de la série britannique Black Mirror? L'amour au temps du numérique, c'est notre thème ce matin avec l'hebdomadaire Le 1. Nous recevons la sociologue Marie Bergström et le philosophe Richard Memto. Avez-vous succombé à l'appel des sites et des applications de rencontres pour trouver l'âme sœur? Rêvez-vous d'une technologie qui vous permettrait de trouver l'amour à coup sûr? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Nous nous sommes rencontrés à la radio et c'est une histoire platonique qui dure depuis plusieurs années. Bonjour Eric Libio.
Bonjour Ali. Vous dévoilez tout comme ça.
Exactement,
dès le matin.
On retrouvera vos choses presque vues tout à l'heure.
Exactement. Je voilà. Piste dans les livres.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Et pour réfléchir à l'amour au temps du numérique, trois invités. Bonjour Marie Bergström.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques et vous avez publié à la Découverte une brillante enquête, Les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontre au temps du numérique. Bonjour Richard Memto.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie et vous avez publié chez Zone, Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
C'est le retour du fils prodigue dans cette émission. Vous êtes le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1 et vous publiez avec le Palais de la Découverte ce que les sciences savent de nos amours. Julien Bisson, pourquoi éprouvons-nous le besoin d'expliquer nos amours par le biais des sciences? Est-ce que c'est parce que l'amour est devenu l'un des signes les plus visibles de notre bonheur personnel? Rater ses amours reviendrait à rater sa vie?
On aimerait peu.
Si la science peut nous aider à faire les meilleurs choix, alors allons-y.
On aimerait sans doute mettre un peu l'amour en équation, mais je crois surtout que c'est la possibilité nouvelle offerte par les sciences d'arriver à comprendre nos sentiments. Pendant des siècles, les artistes, les poètes, les philosophes, comme vous l'avez dit, ont essayé d'écrire sur l'amour, de disserter sur l'amour, sans en percer tous les mystères. Les sciences, et notamment les sciences affectives, quand je parle de sciences affectives, c'est évidemment de la psychologie, de la psychiatrie, et ensuite de la sociologie, et ensuite de la neurobiologie, ont permis d'approcher un petit peu le mystère de nos émotions. C'est comme une sorte de grand striptease, un long striptease depuis une quarantaine d'années, pendant lequel notre cerveau se déshabille peu à peu, et on arrive à en percevoir le fonctionnement. Maintenant, on sait de mieux en mieux comment ça se passe, mais on ne sait toujours pas très bien pourquoi ça se passe.
Richard Memto, la philosophie, la littérature n'ont plus le monopole du discours amoureux?
Mais moi, je crois que si. Non, c'est-à-dire que la philosophie ne fait pas que décrire, elle prescrit aussi. Et donc, évidemment, c'est très lié à des questions éthiques. C'est-à-dire que c'est bien de comprendre, ça permet de mieux agir, mais au final, on veut quand même agir, trouver une forme de réussite, définir ce qu'est une réussite amoureuse. Et ça, bon, la science peut-être peut nous aider à le faire, mais ça reste des questions qui partent tout de suite très vite dans l'imaginaire, savoir ce qu'est un désir. Et au fond, la philosophie est assez bien placée. J'aurais tendance à la défendre.
Marie Bergström, du point de vue de la sociologie.
Le point de vue est un peu différent. Donc, qu'est-ce que l'amour? C'est la question au début de l'émission. D'un point de vue sociologique, l'amour, c'est à la fois une pratique et un récit. Et l'amour, la sociologie a beaucoup étudié la pratique, c'est-à-dire comment on se met en couple, comment les unions se forment, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est dans une relation, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, etc. Et il y a aussi une analyse de récit qui est aussi une analyse historique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on raconte l'amour, comment est-ce que la littérature a parlé de ces relations intimes. Donc, voilà, il y a un double point de vue. évolue à la fois le discours et la pratique.
Est-ce que les applications mobiles, les sites de rencontres sont des instruments pour nous aider à trouver sa moitié, son double, selon des critères rationnels, scientifiques, basés notamment sur des algorithmes ?
Alors ça, c'est une question compliquée. Alors,
c'est pour ça que je vous la pose, Marie-Bertrand.
Déjà, une première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on fait des rencontres, est-ce qu'on forme des couples grâce aux applications et aux sites de rencontres-là ? Clairement, la réponse est oui. Aujourd'hui, on le sait par les enquêtes, il y a un grand nombre d'unions qui sont formées par ce biais. Donc c'est vraiment, ça devient un des modes de rencontre les plus importants. C'est le cas en France, c'est le cas dans d'autres pays. Après, est-ce que ce changement-là implique une rationalisation, la toute-puissance des algorithmes, là, la réponse est plutôt non.
Pourquoi ?
Parce que déjà, on a tendance à surestimer le rôle des algorithmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur ces sites, ces applications, les algorithmes qui sont mis en œuvre, et certes, il y en a, ils sont pas forcément très sophistiqués. C'est-à-dire qu'on va mettre ensemble des personnes qui habitent une région proche, qui ont à peu près le même âge, qui sont connectées en même temps, etc. Mais il y a assez peu de services qui vont mettre en œuvre des algorithmes plus puissants, qui vont en plus de détails. Alors, on pense qu'ils le font, on a très peur de ça, c'est un peu Big Brother dans l'amour, on n'aime pas cette idée avec quelqu'un qui tire les ficelles. Je pense que c'est une crainte plus qu'une description de ce qui se passe réellement.
Richard Memto.
Mais oui, en fait, moi je pense qu'on est en partie les algorithmes, c'est nous qui les nourrissons, et quelque part ils font que nous renvoyer l'image qu'on a envie de produire. Donc en réalité, ce que font les applications surtout, je pense, hein, c'est que elles vont un petit peu trivialiser le mythe romantique qui voudrait qu'on se rencontre par hasard. Mais moi, je pense qu'il faut l'assumer. C'est-à-dire que déjà, croire à ce coup de foudre, coïncidence galactique, c'était assez enfantin dans le fond. Et puis, c'est un discours très tardif. C'est-à-dire que si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on veut encore y croire, alors qu'on sait qu'en fait, on a des instruments qui permettent de rationaliser en partie. Évidemment, le fantasme de l'algorithme qui nous donnerait tout de suite l'élu de notre cœur, c'est un fantasme, et surtout on voit ce qu'il détruirait, c'est-à-dire il détruirait la possibilité de choisir par soi-même. Et au fond, ce que les applications ont bien compris, c'est que elles misent plutôt sur notre goût de liberté de choisir et de maximisation du choix.
Oui, là on revient sur la question de l'amour en soi en tant que pratique ou comme récit. En fait, quand on regarde les pratiques, il y a beaucoup de choses sur les applications et les sites. En fait, ça se passe de manière parfois très semblable à ce qui se passe hors ligne. C'est-à-dire que l'amour n'est pas aveugle sur Internet. Ben, en fait, il n'était pas non plus hors ligne. Il y a des formes de sélection, de discrimination, d'évaluation, des jugements sociaux. Et en fait, ça, les sites et les applications, ils les ont pas inventés. En revanche, ils mettent à nu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une explicitation des rouages de la rencontre sur Internet. En revanche, l'amour en tant que récit, comment on raconte l'amour, les imaginaires, que ça se fait par hasard, et tout ça, ça, les sites et les applications, ils les mettent vraiment au défi.
Oui, moi je pense qu'en plus, ce qui est amusant sur ces applications, c'est qu'on est tous un petit peu des enquêteurs. C'est-à-dire qu'on n'a que des informations un petit peu lacunaires. Et donc on essaie de les compenser en les récupérant une par une. Et au fond, il y a une sorte de grande procédure. Alors, Foucault en serait complètement
Michel
Foucault, oui. Voilà, donc il en serait désolé parce qu'il voulait pas que on soit aussi occupé par la vérité du désir. Mais en réalité, on essaye de faire dire la vérité à l'autre, ce qu'il veut, s'il veut ou s'il veut pas, comme disait la chanson.
Alors une idée reçue veut que des applications comme Tinder, Grindr, Happn, elles ont tué l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez, Richard Memto ?
Moi, je suis très content que ces applications tuent effectivement l'amour. Je pense qu'il y a un mythe quand même qui survit trop longtemps, et ce mythe-là, en fait, il est vraiment lié à ce qu'est l'amour au départ. C'est-à-dire quand on dit faire l'amour, c'est d'abord parler d'amour. Pour les courtisans, c'était d'abord donc des discours, en fait. Et des discours dont on sait pas trop à quelle réalité ils renvoient. Il y a pas longtemps, justement, un philosophe avait tenté de le définir, l'amour, donc Francis Wolff, qui le titre s'appelle « Il n'y a pas d'amour parfait » parce que c'est un mix. Alors pour lui, c'était un mix de, si je me souviens bien, désir érotique, de passion et en même temps d'amitié. Mais ça veut dire quand même que la façon dont on en parle la plupart du temps, la façon commune dont on en parle, pour moi c'est un petit peu l'amour disco. C'est-à-dire on parle d'amour, mais en fait on parle de désir. Le give me love là de Marc Cerron, c'est ça. On veut donnez-moi de l'amour, c'est donnez-moi du sexe en fait.
Marie Bergstrom.
Les sites, les applications n'ont pas tué l'amour. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de couples qui se forment par ce biais-là. Ce sont des personnes qui sont ensemble et qui disent qu'ils sont amoureux, que l'autre personne est leur amoureux. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut les prendre au sérieux. C'est-à-dire, c'est difficile de défendre que ces services ont tué l'amour lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup d'unions qui se formaient par ce biais-là. En revanche, ce qui est vraiment nouveau, c'est que à côté de l'amour et à côté du couple, il y a plein d'autres relations en fait qui se forment. Et effectivement, et les sites et les applications ont donné lieu à une diversification des relations. Donc voilà, des plans cul, des coups d'un soir. Et donc ça, c'est vrai, mais ces relations-là ne sont pas vraiment une concurrence au couple qui existe toujours. C'est plutôt une ouverture des possibles plutôt que cette idée qu'ils ont tué l'amour.
Sur ces applis, Richard Memto, on recherche pas seulement l'amour, on recherche également des sex friends, en bon français, des amis sexuels. Les sex friends, ce sont à la fois des amis et des amants. Apparemment, c'est un oxymore, hein, amis sexuels.
Oui, mais en réalité, moi, je suis toujours frappé par l'idée que, justement, quand on parle d'amour, on aurait tendance à le faire par exclusion de l'amitié. Mais je parlais à des collègues qui avaient un certain âge et qui me disaient, mais en fait, déjà dans les années 60, on voyait bien la continuité. C'était Henri Trachant qui disait qu'entre l'amour et l'amitié, enfin, qui chantait, hein, Henri Trachant, c'était un chanteur, mais qu'il y avait qu'un lit de différence. Et là, j'aurais écouté une chanson complètement par hasard, Isabelle Pierre, là, qui dit, oui, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Et je me dis, en fait, tout le monde sait bien qu'il y a une continuité entre l'amitié et l'amour. Et il vaut mieux l'assumer. C'est-à-dire que, des bons amoureux, c'est des amoureux qui sont capables d'être amis par ailleurs, dont le seul lien n'est pas que sexuel ou qui serait pas simplement l'enfant ou alors le projet, le contrat de couple.
Et ces applications de rencontres permettent de trouver ce sex friend, cet ami sexuel, de la façon la plus rationnelle possible?
Elles obligent à penser qu'il y a un lien de confiance. Mmh. Parce qu'effectivement, ce que font les applications, c'est qu'elles globalisent un petit peu le désir. Où qu'on aille et n'importe où, on peut croiser en fait des gens, on peut même leur parler à l'autre coin de la planète. Et du coup, on est obligé, parce que ce sont des étrangers, de construire un minimum de confiance. Et c'est là, à mon avis, qu'on redécouvre quelque chose d'important. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de désir qui devrait satisfaire immédiatement, mais il y a un continuum qui mène au désir et qui est construit justement par cette relation de confiance.
Le regard de Julien Bisson.
Oui, il y a un continuum qui passe d'abord par la parole, c'est-à-dire, comme vous le disiez, faire l'amour, c'est d'abord parler d'amour. Et sur ces applications, il faut d'abord parler. C'est pas simplement on va se regarder, on va matcher, mais il va falloir s'écrire et se parler avant de se rencontrer bien souvent. Donc là aussi on retrouve un peu on n'est pas simplement dans un coup de foudre qui ne serait qu'un coup de foudre physique, il faut aussi qu'il y ait une connexion qui se fasse dans la parole et dans l'écriture.
Tiens, on se demandera tout à l'heure si le coup de foudre est si irrationnel que ça. Allez, avez-vous succombé à l'appel du numérique, des sites et des applications de rencontres pour trouver l'âme sœur? Rêvez-vous d'une technologie qui vous permettrait de trouver l'amour à coup sûr? 0145 24 7000. Alexia Rivière, Claire Destacant et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et je vous propose d'écouter une chanson de 1972. Cette année-là naissait l'acteur Jude Law et disparaissait l'écrivain Henri de Monterland. Bonne journée à l'écoute de France Inter. Qui sera l'homme que j'aime. Véronique Sanson interprétée comme je l'imagine. Éric Libiot, vous vouliez apporter un rectificatif au propos de Richard Memento,
bah oui, en tant notre invité. Que vieux sage, enfin que plus vieux que sage d'ailleurs. C'est Tachan, Henri Tachan.
Et non pas Henri Trachan.
Voilà, mais le lapsus est amusant parce que justement je me demandais si avec ces nouveaux comportements, est-ce que on est plus trash, on est plus romantique, est-ce qu'on se cache derrière ou devant des écrans pour pouvoir s'exprimer un peu plus librement? Comment ça est-ce qu'on a un peu des études là-dessus?
C'est très ambivalent parce que d'une certaine façon, on est un petit peu caché du regard des autres, donc on peut se lâcher sur les applis. Et en même temps, parce qu'on y réfléchit beaucoup, peut-être qu'on romantise énormément. Tout seul, chez soi, on imagine et on fantasme un peu. Donc je pense pas qu'on soit plus trash.
Et on s'intéresse ce matin à l'amour au temps du numérique avec la complicité de l'hebdomadaire Le 1, avec le philosophe Richard Memento et la sociologue Marie Bergström.
Bon alors, vous connaissez un Tinder, Happn, adopte un mec, c'est plus ou moins toujours le même principe. C'est pour flirter, rencontrer l'amour, voire pratiquer le sexe, hein. Ou directement pratiquer le sexe.
C'est diabolique votre truc.
Salut, ça va? Tu es très charmante sur tes photos.
Jamais j'aurais pu m'imaginer qu'on pourrait se mettre en contact avec des milliers de femmes comme ça.
Est-ce qu'on pourrait faire connaissance? T'as des détails, voilà, sur les mensurations, le type de cheveux, la couleur des yeux, la profession. Donc tout de suite, t'as déjà une image.
J'allume mon ordinateur et ma respiration se bloque jusqu'à ce que je lise ces quatre petits mots. Vous avez un message.
Vous avez rendez-vous?
Tu la vois?
Et comment, dis-moi comment elle est. Est-ce que tu la vois?
Oui, elle est très 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 belle.
Elle est, je suis sûr qu'elle serait belle, il fallait qu'elle soit belle.
Bonsoir Kat.
Bonsoir.
Je suis Bradley. C'est un plaisir d'enfin vous rencontrer.
Oh, le plaisir est tout à fait partagé.
Ah oui? Eh bien, j'ai hâte de faire durer ce plaisir.
T'as rencontré quelqu'un?
Ben oui, j'ai rencontré quelqu'un.
Et tu l'as rencontré où?
Sur Internet.
Sur Internet, sur un site de rencontre?
Ben oui, t'avais raison, hein. C'est formidable Internet.
Medley signé Stéphanie Texier. Alors, quelle est la place du coup de foudre, de la prédestination à l'heure du numérique? Marie Bergström, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'INED.
Bah, le coup de foudre, déjà, en fait, on le sait, notamment par les enquêtes, en fait, il survient pas n'importe où. En fait, c'est plutôt les gens qui ont rencontré leur partenaire dans une foule, dans une place publique, qui vit le coup de foudre. C'est-à-dire qu'on l'a dans un contexte où il y a beaucoup de monde. Et de ce point de vue-là, en fait, on peut aussi avoir des gens qui ont des coups de foudre sur Internet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une première impression qui est forte et qui est très bonne. Et on a l'impression qu'on a trouvé la bonne personne tout de suite. Et ça, on le trouve aussi sur Internet. Donc, cette idée que ces applications ont complètement rationalisé la rencontre. En fait, il y a effectivement des personnes qui ont un rapport très rationnel, stratégique à l'usage, mais on trouve aussi des personnes qui ont un usage quelque part beaucoup plus intuitif, qui tombent facilement amoureux, qui sont assez enchantés, enthousiasmés par les personnes qu'ils rencontrent. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui se sont mariées avec la première personne avec qui ils ont discuté en ligne.
Est-ce que les histoires de princesses et de bergers qui éprouvent un coup de foudre, est-ce que c'est si fréquent que ça? Que nous dit la sociologie à ce propos?
Oui, donc là, on est vraiment l'amour comme récit. C'est cette idée d'un amour qui est aveugle, qui
entre réunit, personnes de classe sociale
voilà,
très différente.
Ça, c'est cette idée que, voilà, on peut tomber amoureux de n'importe qui, que ça n'a rien à voir avec les milieux sociaux et ces considérations-là.
Est-ce que c'est vrai dans le numérique?
Alors non, c'est pas tellement vrai. C'est pas vrai hors ligne et c'est pas vrai non plus sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a une sélection sociale sur les sites et les applications qui passe par les jugements sur l'image. Les pratiques photographiques sont très différentes selon les milieux sociaux et les gens se jugent là-dessus. Le selfie est jugé vulgaire dans certains milieux, apprécié dans d'autres. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi l'écrit, les fautes d'orthographe, extrêmement discriminant socialement, qui devient vraiment un jugement de critères pour les personnes diplômées qui vont en fait disqualifier les personnes qui ne savent pas écrire un message. Donc il y a plein de mécanismes comme ça de sélection et élimination sociale qui existent ailleurs et qu'on retrouve sur Internet sous une forme un peu différente.
Richard Memento, est-ce que vous avez constaté la même chose de façon plus expérimentale?
En pratiquant,
vous mettez en scène dans votre livre Sex Friends.
Oui, j'ai mis Grindr en arrivant à France Inter. Là, je voulais savoir si quelqu'un était connecté. J'ai vu personne. Hein. Mais non, moi, écoutez, franchement, j'ai l'impression, le coup de foudre. Bon, quand on est prof de philo, on aurait du mal à tout à fait y croire. Mais on sait qu'évidemment, moi, je pense, même pour moi, il y a des moments où on est comme fragile ou vulnérable, et on a envie de tomber amoureux parce qu'on a envie, en fait, de dépendre de quelqu'un tout à coup. Et même dans un film là récent, le dernier Clapiche, hein, on explique un petit peu ce moment où l'héroïne, enfin l'une des protagonistes, hein, puisqu'ils sont deux, veut finalement se perdre dans une histoire d'amour. Et je pense qu'effectivement, ça dépend tout à fait des gens, et même des gens qui ont des cycles peut-être un petit peu différents. Ils comprennent qu'à la fin, dépendre uniquement de quelqu'un ou d'un accident tout à fait heureux, ce serait peut-être assez déraisonnable. Et donc, moi, j'ai tendance à vouloir redevenir raisonnable. Donc, peut-être pas complètement à m'adonner comme ça au premier venu. Mais, je veux dire, on peut changer. On peut changer.
Est-ce que vous avez constaté une endogamie sur les sites que vous fréquentez?
Bah, il y a une endogamie, effectivement, parce qu'on sélectionne soit selon les photos, selon l'orthographe. Enfin, Marie le dit vraiment très bien. Mais après, le désir quand même très fort qu'on a tous, c'est d'échapper aux statistiques. C'est-à-dire que dès qu'on les montre, les statistiques, on va dire « Ah non, bien sûr que non, moi je suis ouvert, etc. » Et après tout, quand même, y avait ce fantasme-là, moi je pense encore un petit peu dans les applications, qui est d'explorer. Même socialement explorer, c'est-à-dire se retrouver avec n'importe qui et voir ce que ça peut faire de discuter avec le postier du coin ou alors, au contraire, son boulanger.
Oui, je pense qu'un des succès, un des attraits de ces services, c'est qu'effectivement, c'est l'idée que ça brasse de monde, qu'on peut rencontrer des gens à qui on n'aurait jamais eu l'occasion de parler par ailleurs. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce que le fait d'aller au-delà de son cercle de sociabilité, de rencontrer des gens qui sont loin en termes de liens sociaux, ça ne veut pas forcément dire qu'on rencontre des personnes qui sont très différentes socialement du point de vue du milieu social. Donc on rencontre des gens loin, mais finalement socialement proches.
Oui, mais Richard Memetaux, quand on cherche l'âme sœur sur un site ou une application de rencontre, ou un sex friend, un ami sexuel, on cible sa recherche. Et plus on multiplie les critères de départ, plus on réduit l'échantillon à l'arrivée.
Oui, c'est un des paradoxes, mais en réalité, si on cherche à être amoureux, évidemment, on va multiplier les critères. L'avantage du sex friend, que je défends un peu ici, c'est de dire, bah, au fond, le critère principal est pas forcément justement celui de toutes les correspondances sociales, c'est d'avoir quelque chose d'assez pragmatique, et même d'assez opportuniste. Mais dans l'opportunisme, il y a du bon, c'est qu'en réalité, on peut mettre des critères de côté, par exemple les diplômes, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir des tonnes de diplômes pour être un bon coup, donc ça peut suffire du coup juste d'être disponible au bon moment et au bon endroit.
Éric Libiot, qui a beaucoup de diplômes.
Oui, Richard Memetaux faisait allusion tout à l'heure au film de Clapiche, De moi, et effectivement, la jeune fille qui cherche l'âme sœur va sur les applications par frustration, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à trouver dans la vraie vie, si je puis dire. Est-ce que c'est un phénomène courant, cette frustration? Est-ce qu'on y va par frustration ou par désir, finalement?
Bah, ce qui est très frappant dans ce film aussi, c'est que ce que ça met en scène, c'est aussi un certain âge. En fait, je pense qu'on dit, est-ce que les sites, les applications marchent? Qu'est-ce que l'on fait là-dessus? Il faut vraiment différencier selon les âges. À l'âge de la jeunesse, on fait plein de choses. En fait, on vit des relations très diversifiées. Ce que le film met en scène, ce sont des personnes qui s'approchent de la trentaine et qui ont envie d'être en couple. Donc, en fait, la norme conjugale devient forte à un certain moment de la vie. Il y a les aspirations à vivre à deux qui est très fort, les injonctions de l'entourage qui sont très fortes. Et à ce moment-là, il y a un peu une tension de l'amour, en fait. Et là, effectivement, les sites, les applications sont à la fois très importants, mais créent aussi beaucoup de frustration. Mais ça, c'est pas une image universelle, en fait. Ça décrit surtout, en fait, un âge particulier.
Le film de Clapiche s'appelle De moi. Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1.
Oui, la question de l'homogamie est intéressante parce que c'est intéressant de voir de la façon dont elle se déplace. Et en effet, ce qui se passe en ligne n'est pas très différent de ce qui se passe hors ligne, de ce point de vue-là. L'homogamie économique, c'est un petit peu en reflux, les statistiques nous le montrent, mais ça se déplace vers une homogamie culturelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui ne gagnent pas du tout le même salaire, mais qui font partie d'un même monde culturel, qui vont voir les mêmes films, qui parlent des mêmes séries, et qui du coup vont pouvoir se retrouver. La véritable homogamie, c'est plutôt dans les élites, dans les enfants des grandes écoles, et pour le qui, là, il y a un calcul socio-économique qui est à l'œuvre.
Oui, ça c'est quelque chose qu'on voit vraiment, et je pense que les sites et les applications, ils participent à cette homogamie culturelle-là, c'est-à-dire que effectivement, sur ces services, on peut parler avec des gens qui ont des métiers un peu différents, mais sont les personnes qui se retrouvent et qui en échangent et qui ont ils parlent souvent de feeling, ça veut dire une affinité un peu intuitive, c'est des gens avec qui on a des choses à se dire. Donc ça veut dire quoi? Ben, on a vu le même film, effectivement, où on a des pratiques qui se ressemblent. Donc créer de l'affinité à distance et de se reconnaître dans l'autre, donc ça veut dire à la fois de se voir soi-même, mais aussi de avoir des choses, on comprend de quoi parle l'autre personne. Donc ça, c'est très important.
Bonjour Victor, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous fréquentez les applis et les sites de rencontres?
Fréquenter, c'est beaucoup dire. Disons que, suite au décès de mon épouse, comme les sites de rencontres ne sont pas faits uniquement pour les jeunes gens, et vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien, Victor.
Voilà, c'est pas fait que pour les jeunes gens, donc l'envie de retrouver une personne à qui parler a été très forte, et donc, voilà, j'ai cherché par un site de rencontre quelqu'un qui me correspondrait.
Mmh. Et alors?
Eh bien, par exemple, bon, moi, mes passions, c'est le grand chanteur que personne connaît, enfin, que les gens intéressants connaissent, Jacques Bertin. J'ai mis ça sur mon site de rencontre et j'ai eu la chance d'avoir une correspondante qui savait écrire, qui avait une belle écriture, sans faute d'orthographe, qui connaissait Jacques Bertin. Et donc, grâce à cela, nous avons communié, écouté nos premiers disques ensemble et attendu le prochain qui va sortir incessamment sous peu. Voilà, donc ça a été un atout formidable. J'aurais jamais pu rencontrer quelqu'un comme ça en dehors d'un site de rencontre.
Eh bien, figurez-vous, Victor, que je ne connaissais pas Jacques Bertin et Éric Libio non plus, hein ?
Non, mais je vais attendre son prochain disque avec impatience.
On va écouter ça après l'émission, mon cher Victor. Marie Bergson, sur le joli témoignage de Victor.
Oui, je pense que là, on a une histoire qui est partagée par beaucoup de personnes. Et ça témoigne de beaucoup de choses dont on a déjà parlé, de l'écriture, qui est à la fois en fait une manière de créer de l'affinité, mais où il y a aussi du social, le faute d'orthographe, en fait, de se retrouver avec quelqu'un qui a à peu près la même manière de décrire le même rapport à l'écrit. C'est pas socialement anodin, ça situe socialement. Mais aussi, justement, ce qu'on disait à tout à l'heure, en fait, les pratiques culturelles, comment les pratiques culturelles peuvent vraiment créer de l'affinité, un sentiment de proximité, de partage, et qui est très important dans l'amour, parce que finalement, c'est quoi l'amour ? Se sentir proche de l'autre, sentir une affinité, et là, d'avoir des pratiques qui se ressemblent, ça participe beaucoup à ça.
Richard Memto, vous, c'est pas Jacques Bertin, c'est plutôt Frank Ocean ?
Mais moi, oui, mais j'aime bien Frank Ocean, mais en fait, maintenant, c'est assez générique, hein. J'ai vu des tonnes de profils avec Frank Ocean, comme ça. Mais non, mais en réalité, une des questions aussi, c'est de savoir ce qui se passe après, en termes sensuels. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on ne peut pas aussi sélectionner à partir de pratiques sexuelles ? Et donc là, on n'est pas sur Jacques Bertin, c'est sûr. Mais on est plutôt sur des affinités qui peuvent être dites et qui doivent être explicitées. Si jamais, il faut peut-être aussi créer une entente sexuelle.
Victor, est-ce que les affinités sexuelles, ça a été un critère sur votre...
Pas du tout, ça a été après. Bon, par chance, ça a bien fonctionné entre nous, mais ça n'a absolument pas été ça, parce que je me voyais mal avoir une affinité quelconque sexuelle s'il n'y avait pas l'affinité intellectuelle auparavant. Et donc, par exemple, nous aimons le cinéma ensemble, nous détestons la publicité, on coupe la radio chaque fois qu'il y a de la pub, genre de choses, vous voyez.
Marie Bergson.
Oui, là aussi, on a des usages différents selon les groupes et la possibilité d'expliciter les pratiques sexuelles et de faire un choix des partenaires là-dessus, c'est quelque chose qui est très banal et très grand dans les milieux gays, par exemple. Mais sur les sites et les applications hétérosexuelles, ça se fait pas du tout, en fait, pour deux raisons. Parce que les sites et les applications modernes, mais aussi parce que c'est un sujet vulgaire. Donc c'est beaucoup, beaucoup moins courant.
J'ai été grillé, Merci Marie. Non, effectivement,
Julien Bisson.
Oui, le témoignage de Victor aussi nous rappelle que les sites et les applications sont très utilisés pour des gens d'un certain âge qui sont dans des remises en couple, pour lesquelles la société n'a plus de lieu de sociabilité, ces lieux n'existent plus, les occasions de rencontre de nouvelles personnes n'existent plus, les cercles d'amis sont formés, les destins professionnels également, et donc les possibilités de rencontre sont beaucoup plus rares. L'émergence de ces sites de rencontre permet justement à toute une nouvelle génération de pouvoir retrouver des partenaires.
Merci beaucoup Victor de nous avoir appelé à l'île des temps de retrouver les choses presque vu d'Éric Libio.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Chose vue.
Et fort heureusement pour nous, il n'est pas psychiatre, ni psychologue. Éric Libio et ses choses presque vues.
Alors le sujet du jour, Ali, est donc de savoir comment trouver l'amour au temps du numérique. Et depuis tout à l'heure, j'entends parler de Happen de Grindel. Alors que moi, je suis encore à Ernst Lubitsch, évidemment, qui en 1940 réalise le merveilleux The Shop Around the Corner, l'histoire de deux employés d'un grand magasin qui ne s'aiment pas dans le travail, mais qui correspondent ensemble par lettre, sans le savoir, et sont amoureux l'un de l'autre. En 1998, Nora Ephron en réalise un remake, Vous avez un message. Cette fois, les deux héros communiquent par mail, ils s'opposent en face à face, mais s'aiment dans l'anonymat. Alors ça fait peut-être un peu vieux con, bien que je ne sois pas si vieux, mais le charme de ces rencontres, c'est qu'elles fonctionnaient comme un jeu de piste où tout se découvrait à son heure, où les indices étaient délicatement déposés sous le paillasson. Et puis j'ouvre le livre de Marie Bergström et page 5, je lis, c'est un bien grand mot, puisqu'il est seulement écrit pour E majuscule, accent aigu. Et là je me dis, ça y est, c'est un plan de drague, un message caché, un petit caillou dans le jeu de piste. Et qu'est-ce que c'est que ce E ? Est-ce un émoi ? Un « et vous là-bas », un élan du cœur, une histoire est-elle en train de naître ou de ne pas naître ? J'imagine que E est une initiale, mais S, Eliane, Édouard, Edith, Émir, Ethel, Érico. Et tout à coup, je me rends compte que c'est peut-être Éric. Est-ce donc à moi que vous vous adressez? Et si oui, pourquoi? Au lieu d'écrire un livre, franchement, n'était-ce pas plus simple d'attendre cette émission pour me dire ce que vous avez à me dire, même hors antenne? Alors que je tergiversais, je remarquais que dans le nom de Richard Memento, votre autre invité a dit, il y a trois E, deux sans accent et un avec un accent grave. Donc aucun avec l'accent aigu, comme dans le E de Marie Bergström. Mais justement, c'est peut-être là l'indice. Et si ça se trouve, Marie, vous vous adressez à Richard. Et c'est alors que je remarquais quelque chose de troublant dans le livre de Richard Memento. La première référence en bas de page que vous faites dans votre introduction, page 15, concerne un certain E. Armand, auteur de La Révolution sexuelle et la camaraderie amoureuse, sans jamais vous donner son prénom, laissant cet E brouillé. Est-ce donc les prémices d'une conversation entre vous deux par livre interposé? Avouez que ça a quand même plus de gueule que Bumble ou Grindr. Encore plus troublant, dans votre introduction, Marie Bergström, à la 12e ligne, vous évoquez l'épique, donc avec un « et » accent aigu, qui est l'étude de parcours individuel et conjugaux. Ligne 15 ici, ligne 12 là, peut-être un rendez-vous se profile-t-il le 15 décembre à 15h12? Car qui dit épique dit forcément romanesque. Mais d'où vient cette épique? Je cherche alors dans les renseignements de votre livre et je lis que vous remerciez l'épique épique de l'Institut National d'Études Démographiques. L'intitulé est évidemment sérieux, mais c'est encore un cache-sexe, si je puis dire, puisque cette allitération épique-épique est trop piquante pour être honnête. Et puis à la fin des remerciements, vous écrivez, je cite, « Merci enfin à Étienne pour ses nombreuses relectures, ses conseils et surtout ses encouragements qui m'ont permis de rendre ce livre meilleur et de le mener à bien. » Et là, vous ne trompez personne, Marie, si je puis dire, car je soupçonne cet « et » introductif, si je puis dire, et qu'il est bien, bel et bien Étienne. Et c'est à mon tour de vous remercier, Marie et Richard. Vous m'avez permis, hors de toute application numérique intrusive, si je peux me permettre, de laisser l'imagination faire son boulot en s'amusant à inventer des histoires presque vues. Enfin bon, inventer, faudrait quand même voir, si je peux me permettre. Réalité ou fiction, ce sont souvent les mêmes histoires, croire ou ne pas croire, là est la question.
Et je vais réécouter à tête reposée votre chronique, Éric Libio, une chronique à voir en vidéo.
Ah oui, la page 15 et la page 12.
Exactement, à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. L'amour au temps du numérique, c'est notre thème ce matin avec l'hebdomadaire Le 1. Avez-vous succombé au site et aux applications de rencontres? Est-ce que ça vous permet de rationaliser vos choix? 01 45 24 7000.
Yo por ti, tú por mí.
Mami.
Colgando del cuello los juguetes.
Del cuello los juguetes.
Rodeado de flores y billetes.
Flores y billetes.
Estamos worldwide a machete.
Sí, sí.
Y mira Bang Bang si con nosotros te entromete.
Pa, pa, pa.
No quiere que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete.
Me da igual.
Contigo puesto hasta el número 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me ponga los grilletes.
Los grilletes.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Que tú me cantes.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Así es.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Por ti, tú por mí. Por ti, tú por mí. Por ti, tú por mí.
Por ti, tú por mí. Por ti, tú por mí. Por ti, tú por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina hasta esa son sonaría. ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina hasta esa son sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina hasta esa son sonaría.
Rosalia et Ozuna sur France Inter.
Non mais regarde qui m'a charmé sur Apple.
Ah putain, il est trop moche.
Non mais t'as vu ses cheveux, j'ai envie de vomir.
Grand bien vous fasse.
J'ai tout entendu là.
Sur France Inter.
10h42 et on s'intéresse ce matin à l'amour au temps du numérique avec la complicité de l'hebdomadaire Le 1. Alors Richard Memento, vous avez donc publié Sex Friends et vous avez sous-titré votre livre « Comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique ». Bien raté sa vie? Vous avez raté votre vie amoureuse?
Mais oui. Non, mais moi, je me porte bien. Donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'évidemment, si on va au bout de la logique du sex friends, l'amour est vraiment devenu une exception sur quelque chose qui est, au fond, les relations courantes et ordinaires sexuelles et qui sont des relations aussi donc qui ne sont pas que sexuelles, parce que l'idée un petit peu comment dire repoussoir, c'est que le sexe, c'est que pour le sexe, qui serait bestial, etc. Mais en fait, cette espèce d'absolu que serait le sexe pour le sexe n'existe pas. Enfin, moi, je l'ai pas rencontré, mais même je peux imaginer des cas tout à fait limites où en réalité, même dans le sexe le plus anonyme, il faut au moins pouvoir se retrouver au même endroit. Donc, il y a déjà quelque chose d'autre que simplement du sexe. Il y a une sorte de confiance de pouvoir aller au même endroit, au même moment, quoi. Donc, je pense qu'il faut accepter un petit peu de rater sa vie amoureuse, mettre le couple plutôt comme une sorte de forme secondaire de notre sexualité. Mais ça, c'est évidemment mon point de vue.
Marie Bergström, sociologue, vous avez publié « Les nouvelles lois de l'amour ».
Oui, et je pense que je veux à la fois aller dans le même sens que ça, et en même temps nuancer un peu, parce que ce qui est un vrai changement qui est intéressant, c'est justement cette apparition de nouvelles relations sex-friend, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi plan cul, des aventures, des choses comme ça.
Des réguliers.
Voilà, c'est ça, des réguliers. Alors ça, en soi, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, il y a eu une diversité de formes relationnelles depuis longtemps. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des noms pour appeler, nommer et qualifier ces relations-là. Donc ils existent en fait comme une référence dans le paysage relationnel. Donc avant, il y avait le couple qu'on identifiait comme une forme assez stable. Maintenant, il y a d'autres relations à côté. Donc ça, c'est vrai, c'est une nouveauté. Mais là encore, moi, j'ai envie de situer un peu dans un parcours de vie. Parce que ces relations-là, on les observe surtout à l'âge de la jeunesse. Mais encore une fois, lorsque les gens s'approchent de la trentaine, les enjeux et les aspirations changent un peu. Et surtout, les personnes qui perdurent dans ces relations plus éphémères, on va assez rapidement dire qu'ils sont immatures, qu'elles savent pas se mettre en couple, etc., qu'il faut quand même passer à autre chose, qu'il faut se ranger, etc. Donc, de ce point de vue-là, il y a une vraie diversité des relations, mais en même temps, la norme conjugale reste extrêmement forte et on accepte et valorise ces relations-là à l'âge de la jeunesse, mais lorsqu'on a 30 ans, 35, 40, 45, là, le paysage est un peu différent et les gens sont très largement incités à vivre en couple et de fait, ils aspirent aussi très souvent à vivre dans une relation à deux. Donc de nouveau, un peu nuance en fait de qui on parle et à quels âges, à quel moment ça peut être valorisé.
Non, alors effectivement, je confirme ce que tu dis, c'est-à-dire que si on l'affirme comme ça, un dîner de famille, qu'on a des sex friends ou qu'on sort d'un plan cul, ça la fout un peu mal. Donc et on doit justifier. Mais justement, l'idée c'est, au fond, on ne pourra pas justifier si on maintient dominante la norme de l'amour et du couple. Et j'ai envie de dire, moi j'ai pas le choix, je suis obligé de dépotentialiser un petit peu cette norme pour pouvoir exister à côté. Et par ailleurs, je pense que même les couples, en fait, sont pas tout le temps des couples aussi monogames et parfaits qu'ils veulent bien le croire. Donc, et on leur rend un petit peu service en leur disant, vous inquiétez pas, on pense pas que vous soyez parfaits.
Julien Bisson, du 1.
Oui, non, c'est intéressant, le hiatus qui continue entre les pratiques et l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a des pratiques qui évoluent beaucoup, qui se multiplient, en effet, la multiplication des rencontres, la complexification des vies amoureuses, et en même temps, un imaginaire qui, lui, reste profondément ancré, qui ne bouge quasiment pas, qui est pas si vieux que ça, pourtant, ça a pas des millénaires, l'idée de l'amour romantique qui va durer toute la vie. Ça a quelques siècles, peut-être même moins. Mais cet imaginaire-là reste encore profondément ancré en nous, il est encore véhiculé par tout un tas de produits culturels qui établissent des normes, et au fond de nous, il y a encore des injonctions à l'amour, il n'y a pas franchement d'injonction au célibat aujourd'hui. Les célibataires existent, mais on n'a pas d'injonction au célibat.
Oui, on peut même dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de manières en fait, de faire couple, d'être en relation, mais pourvu qu'on fasse couple et qu'on vive des relations. C'est-à-dire que en fait, cette diversification des relations, ça n'a pas affaibli la norme conjugale, ça l'a peut-être au contraire renforcé.
Richard Memento, est-ce que le succès des applications de rencontres repose sur nos échecs? Vous écrivez que leur business model exige de prendre au piège le plus longtemps possible les célibataires en mal d'amour. Si ces applications marchaient vraiment, elles deviendraient vite inutile.
Oui, mais c'est le paradoxe, c'est qu'on fantasme justement l'idée que ces applications vont nous fournir encore une fois l'élu de notre cœur, mais si c'était tout à fait le cas, on y viendrait 10 minutes et puis on repartirait aussitôt. Donc évidemment, ce sur quoi elle repose, c'est le désir d'y retourner, de swiper, de balayer encore
swiper,
et encore.
Swiper, expliquer.
C'est ça. Donc sur Tinder, on swipe droit, c'est-à-dire qu'on balaye à droite avec le doigt, on balaye à gauche si on refuse. Et il y a quelque chose qui, là pour le coup, est assez bien étudié par justement les neurologues, enfin les neuroscientifiques en général, c'est le petit plaisir qu'on a à recevoir des notifications, etc. Donc les applications savent nous un petit peu nous piéger. Mais en même temps, moi je pense qu'on est aussi au piège de nos propres désirs. Je crois que c'est juste une condition fondamentale de l'humanité.
Oui, ces applications ont très bien travaillé l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ces applications sont d'abord des entreprises qui veulent être profitables et qui savent comment nous hameçonner. C'est surtout avec eux qu'on a un coup de foudre avec ces applications, avec ces grands groupes.
Et que répondez-vous à ceux qui considèrent que ces applications de rencontres poussent au consumérisme ?
Bah, si on est dans une société consumériste, la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est justement réfléchir à son consumérisme. Donc plutôt que de nier simplement qu'on y soit, autant réfléchir à comment rencontrer ou faire des plans cul équitables en quelque sorte ou responsables. Donc moi je trouve toujours un petit peu coupable ceux qui veulent s'aveugler. En réalité c'est trop tard, on a changé, internet ça existe, les réseaux sociaux ça existe, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dedans?
Et vous critiquez l'idée que nous sommes tous potentiellement des produits et que la drague est devenue un marché. Un livre comme Les sentiments du capitalisme de la sociologue Eva Illouz, c'est pas vraiment votre livre de chevet, Richard Memento.
Mais non, mais en même temps, c'est un débat très théorique là, parce que pour le coup, c'est
intéressant.
Oui, parce que en fait, voilà, dans le langage ordinaire, souvent on parle de marché de la drague, et on fait comme si on était sur un marché un petit peu pour, disons, à la fois accabler, disons, l'interface et pas se rendre compte de ce qu'on fait sur cette interface, et en même temps, on entretient un petit peu l'idée que du coup, c'est sale et que, mais que en fait, ce serait plus sale de vraiment dire simplement que c'est nous qui voulons tout simplement rencontrer des gens et coucher avec. Donc, je trouve que la métaphore est un petit peu pratique et un petit peu paresseuse, et je me demande vraiment si elle marche. Et évidemment, elle marche pas parce qu'on n'est pas des produits, c'est pas non plus une des rencontres uniquement fondées sur des échanges marchands comme la prostitution.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord et je pense aussi que là-dedans, dans ces critiques de marché, il y a cette idée que on sélectionne. Il y a des gens qu'on va choisir et il y a des gens qu'on va ignorer. Et ça choque beaucoup. Sauf que, en fait, ça on le fait déjà. C'est-à-dire que moi je prends souvent les comparaisons, par exemple une boîte de nuit. Si on décide d'aller voir une personne sur la piste de danse, en fait, c'est que certes on a choisi cette personne-là, mais ça veut dire qu'on a éliminé plein d'autres. En fait, ce choix-là, en fait, dans la boîte de nuit, elle est très inconsciente parce qu'on se rend pas vraiment compte qu'on choisit, mais on élimine aussi beaucoup. Alors que sur les sites et les applications, c'est très, très visible. Et donc, ça choque, ça saute aux yeux. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que moi, je dis souvent que ces services, ils explicitent, ils mettent à nu, ils nous donnent à voir beaucoup de choses qu'on trouve ailleurs. Et en fait, c'est de la nature de l'amour d'être basé sur des imaginaires. Donc, effectivement, ça plaît pas parce que ça enlève les imaginaires, les mythes autour de l'amour pour montrer un peu la squelette ou quelque part, en fait, les rouages plus sociaux. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi dans cette critique de marché.
Quelques messages mode qui nous dit il faut arrêter d'être rétrograde et de croire que l'amour aujourd'hui est moins beau, n'existe plus. L'amour sur Internet est juste plus moderne, moins décomplexé, moins caché. Internet ouvre les possibles du couple, il faut seulement savoir maîtriser l'outil. Sébastien, je suis gay, je travaille de chez moi. Donc les applications sont un mal nécessaire pour rencontrer un partenaire. Le problème, c'est que l'on juge les personnes à leur apparence et le reste compte peu. Bonjour Alice. Bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors vous utilisez, bonjour. Bonjour Alice, vous utilisez les sites et les applis de rencontres?
En fait, je suis sur un site de rencontre depuis un an et demi environ. Mm-hmm. Donc ce que j'expliquais à vos collègues tout à l'heure, c'est que le constat que je fais, c'est que finalement la rencontre se fait un petit peu à l'envers de la vraie vie. C'est-à-dire que vous échangez avec une personne par messagerie bien souvent, pendant une semaine, deux semaines, et finalement, vous finissez par rencontrer la personne. Et pendant ces 15 jours, par exemple, vous pouvez aller à vous confier, à vous mettre à nu dans votre vie, dans votre personnalité, et en 5 secondes, vous rencontrez la personne, et là, tout s'écroule, parce qu'il y a un petit détail qui fait que, tout l'imaginaire, tout le personnage que vous avez construit, tout s'écroule. Alors que dans la vraie vie, c'est ce que disait une de vos interlocutrices, c'est que dans la vraie vie, en boîte de nuit, voilà, vous allez aller vers une personne parce qu'elle vous plaît physiquement, il y a de l'attirance, et là, vous allez apprendre à la connaître. Et il y a d'abord eu la rencontre physique qui est incontournable, c'est cruel, mais c'est comme ça, et c'est capital, et ça peut être très bien, comme ça peut être rédhibitoire. Ce que disait donc la personne tout à l'heure en antenne, c'est que moi, depuis un an et demi, je me suis fait plein de copains. Mmh. Alors, ça a été des sex friends, parfois, parce que, voilà, et c'est un mode de fonctionnement qui, ma foi, je trouve, est pas mal, même si ma finalité, mon objectif final, il est effectivement de rencontrer la bonne personne avec qui reconstruire une vraie vie amoureuse.
Marie Bertrand.
Oui, ce que vous soulignez très bien, c'est que le corps n'a pas du tout perdu son importance lorsqu'on fait des rencontres en ligne. En fait, on a beau connaître beaucoup de choses sur les gens, ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, en fait, comment ils voient la vie, leurs ex, etc. Mais quand même, il faut voir la personne parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on peut savoir à qui on a affaire. Et ça fait que souvent les gens veulent le rencontrer assez rapidement pour voir si les premières impressions se retrouvent en réalité, en chair et en os.
Oui, et du coup, ça demande un effort parce qu'il y a toujours un écart entre le réel et le fantasme. Mais j'allais dire, régler cet écart, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour soi. On peut pas systématiquement vivre dans un fantasme. Donc, il y a cette faculté aussi qu'on doit trouver à gérer la déception et à pouvoir la dire. Ce qui est assez nouveau parce qu'auparavant, il suffisait juste de l'ignorer. Et là, maintenant, on doit verbaliser le non-consentement.
Merci beaucoup, Alice, de nous avoir appelé. Vous pouvez continuer à nous appeler au 01 45 24 7000. Vincent Delerme interprétait Vivarda.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Et on s'intéresse encore quelques minutes à l'amour au temps du numérique avec l'hebdomadaire Le 1. Réflexion hors antenne, Julien Bisson.
Oui, ce qui me frappait, c'est je me rappelle d'amis, de couples d'amis qui, il y a une dizaine d'années, quand ils se rencontraient sur les sites de rencontres, avaient tendance à réinventer une histoire à servir à leurs proches pour ne pas dire qu'ils s'étaient rencontrés sur les sites de rencontres. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, ça. J'ai l'impression que les gens qui se rencontrent sur Tinder, sur Mythic, sur Grindr, osent le dire. Et de ce côté-là, il y a l'imaginaire qui est en train de changer. C'est-à-dire l'imaginaire de comment une rencontre doit se produire, on accepte beaucoup mieux cette idée qu'on peut se rencontrer sur un site qui était autrefois quelque chose qui était un peu déclassé.
Marie Bertrand, sociologue.
Oui, on a dit qu'effectivement ces services mettent au défi les imaginaires amoureux, c'est vrai, mais en fait ils permettent aussi de les réinventer quelque part. Donc peut-être excite un peu l'idée de l'amour aveugle et le renforcement de cette idée qu'on peut trouver quelqu'un qui nous correspond vraiment, le vrai match en fait, comme s'il y avait quelqu'un qui était fait pour nous. Donc on peut puiser dans les vieux imaginaires amoureux, on va mettre certains de côté, mais il y en a d'autres qui trouvent une nouvelle force sur Internet.
Richard Memento, je rappelle que vous êtes philosophe. Est-ce que les rencontres amoureuses seront un jour prescrites par un algorithme, comme dans cet épisode de la quatrième saison de la série britannique Black Mirror ?
En fait, dans cet épisode, littéralement, c'est ce qu'on pense qui va arriver. Mais ce qui fait le couple, c'est justement qu'ils arrivent à tromper l'algorithme ensemble. Et au fond, ça me rappelle presque la définition de Pierre Bourdieu, qui disait que l'amour, c'est une sorte de petit grain de sable dans la grande machine de la reproduction sociale. Il y a quelque chose comme une parenthèse enchantée, un monde qu'on voudrait séparer du reste du monde social. Et même si, évidemment, je suis pas sûr que ce soit complètement le cas, et Marie le disait tout à l'heure, malgré tout, je pense que le vrai fantasme, enfin pas le vrai fantasme, mais disons peut-être la réalité même de nos désirs, c'est qu'ils sont beaucoup plus accidentels, capricieux et assez difficiles à neutraliser sous des algorithmes que ce qu'on pense.
Marie Bergström, pour conclure.
Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire, je pense que finalement, les algorithmes sont bien trop élémentaires en fait pour capter ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, des points de vue, des variables sociologiques, psychologiques, émotionnelles, et on ne peut pas réduire ça à une formule.
Alors, je donnais cette définition de l'amour en début d'émission. L'amour, c'est laisser la plus grosse part de pizza à l'autre. Martine me répond, l'amour, c'est quand on pense à l'autre en souriant. C'est Agnès Varda. Elle me dit que c'est quand même plus joli que la part de pizza. Merci Marie Bergström. Les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontre au temps du numérique, c'est publié aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup Richard Memto. Sex Friends, c'est publié chez Zone. Merci beaucoup Julien Bisson. Le tout nouveau numéro du 1 qui sort demain est titré « Ce que les sciences savent de nos amours ». Demain, partenariat avec France 2, on s'intéresse à la pornographie chez les jeunes. Quel est l'impact de ces images sur leur vision de la sexualité? Comment leur parler de sexualité pour les aider à prendre de la distance avec ces vidéos pornographiques? 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Anne Lorcochet et Loïc Frapsos.